T'as mes bouquins?
Pas tout, mais je t'ai trouvé ça d'occasion. L'écrivain a le même nom que toi.
Ah, Ferdinand.
Tu connaissais?
Il est bien ton bouquin?
Bonjour à tous. Cette semaine, Marc Page se rend dans la ville de Georges Brassens et de Paul Valéry, cette bonne ville de Sète. Et nous nous rendons à Sète pour mettre le cap, en fait, sur l'Inde et l'Extrême-Orient. Non pas qu'il y ait une nouvelle liaison maritime, une nouvelle route des Indes qui partirait de Sète, mais un éditeur et libraire s'est installé tout récemment à Sète, une maison d'édition qui est née dans une histoire assez longue qui commence du côté de Katmandou, oui, avec Raj de Kondapa, éditeur, libraire, qui va nous raconter comment il est arrivé à installer sa maison d'édition et sa librairie, Kailash, dans la bonne ville de Sète, sur le quai Rhin et Danube.
Kailash, c'est le nom d'une montagne sacrée qui se situe à l'ouest du Tibet. Pourquoi cette montagne? Parce qu'elle est sacrée pour les religions bouddhistes ainsi que l'hindouisme. Et ce mont Kailash a un glacier qui alimente un lac immense qui se situe à 5000 mètres d'altitude. Au pied de ce glacier, au pied de cette montagne sacrée Kailash, il y a un glacier extrêmement important, qui est aussi important qu'une mer. Et pour faire le tour de ce glacier, donc les bouddhistes appellent le parikrama, ou les hindouistes aussi appellent le parikrama, c'est le tour sacré du lac. Le tour sacré du lac prend pratiquement 6 jours pour faire ça à pied. Donc c'est un lac immense et très important. Donc le mont Kailash, pour moi, c'est la connaissance de l'univers. Et j'ai, emprunter le nom de cette montagne pour fonder cette maison d'édition en 1990 entre l'Inde et la France.
Alors, entre l'Inde et la France, j'ai envie de dire, vous êtes un vrai passeur entre une culture francophone, on va dire, et des cultures orientales. Puisque, alors on va peut-être reprendre l'histoire au début, vous avez d'abord ouvert une librairie française,
ah oui, c'est ça, mais ça c'est très intéressant. En fait, j'ai grandi au Vietnam, de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 19 ans. J'ai connu que le Vietnam américain, je n'ai pas connu l'Indochine. Je connais le Vietnam à l'époque américaine, parce que les Américains étaient présents au Vietnam. Et lorsque je suis parti du Vietnam, je suis arrivé en Inde à l'âge de 19 ans, je ne connaissais pas ce pays. J'ai découvert l'Inde à l'âge de 16 ans. Je suis resté 3 ans en Inde. Après, je suis venu en France à l'âge de 19 ans. Et là, j'ai trouvé du travail par accident, par chance, à la Bibliothèque nationale à Paris, où j'ai découvert le livre. Je n'étais pas du tout issu d'une famille intellectuelle ou dans ma famille, on n'avait pas du tout la tradition de bibliothèque, etc. On n'était pas axé sur la culture, hein, pas sur la littérature en général. Et donc, j'ai découvert les livres à la Bibliothèque nationale à Paris et j'ai beaucoup lu pendant 7 ans. J'y suis resté pendant 7 ans de ma vie et j'ai beaucoup lu. J'ai découvert des auteurs que j'ai publiés de temps à autre, certains aujourd'hui d'ailleurs, republiés en réédition. Et j'ai découvert un trésor de livres extraordinaires à la Bibliothèque nationale à Paris, rue de Richelieu. Et ensuite, j'avais un petit peu assez du milieu intellectuel parce que quand on rencontre les moindres personnes, ils sont tous des post-docs. J'ai fait un doctorat sur Nietzsche, un doctorat sur Foucault. Foucault, je l'ai connu personnellement. Et bon, évidemment, je l'ai apprécié beaucoup. Et plutôt quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à lire, à des choses que Foucault m'a fait connaître également. Mais c'est un monde quand même un petit peu à part. On parle que des choses, pour moi, pas sur Terre, hors sphère, vous voyez. Donc j'ai eu tout à coup, soudainement, 7 ans après, avoir envie de découvrir autre chose. Et découvrir qui suis-je. Je suis indien, né de parents indiens. J'ai eu la chance d'apprendre le français à l'école au Vietnam et je parle vietnamien. Bon, j'habitais en France. Qui suis-je? Pourquoi je suis en France? Je me suis posé beaucoup de questions. Donc, j'ai quitté Paris en 78 pour partir habiter au Népal avec ma première femme et mon fils qui avait 5 ans. Et bon, Jacqueline, elle enseignait le français à l'Institut français de Katmandou, donc elle avait un petit salaire. Et moi, il fallait que je trouve du travail pour pouvoir aussi continuer à vivre normalement. Donc j'ai trouvé du travail chez un voyagiste français, avant-gardiste, qui s'appelait Delta Voyage. Et ce bureau se trouvait en face de la Sorbonne à l'époque, à la place Paul Painlevé, dont Maspero a pris ses locales pour sa maison d'édition. Pour moi, c'est très symbolique. Je suis retourné chez Maspero quand je suis devenu libraire pour acheter des livres dans cette agence où je travaillais de temps en temps comme accompagnateur. Construire les voyages, expliquer aux gens comment faire un trekking, des randonnées au Népal, etc., etc. Donc, j'ai gagné un peu d'argent dans le tourisme qui m'a permis de monter une librairie française orientaliste dont j'ai rêvé depuis toujours. Voilà, donc j'ai gagné un peu de sous dans le tourisme, j'ai monté une librairie magnifique, petite mais jolie, à Katmandou. Elle est de des livres en français sur le Tibet, le Népal, la Birmanie et un petit peu aussi sur l'Inde. Et cette librairie est devenue, comment dire, un must, un lieu obligatoire où les gens devraient venir systématiquement. Donc les Français venaient. Les Français venaient acheter des livres, évidemment sur le Népal, etc. Et puis donc je suis resté à peu près 8 ans au Népal jusqu'à 86. Cette librairie a duré pendant 8 ans, de suite jusqu'à 86. Après, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Lang lors du voyage de François Mitterrand en 83. Il est allé en Chine via le Népal. Et la délégation française a fait un stop-over de 24 heures pour rencontrer le roi du Népal, pour dire au roi du Népal que la France reconnaissait le Népal en tant que pays indépendant par rapport à la Chine et à l'Inde. J'ai eu la chance de rencontrer Jacques Lang, et sans savoir qu'il était ministre, en fait, je suis par la suite qu'il était ministre de la Culture, et Jacques Lang m'a aidé. Voilà, comment il m'a aidé? En fait, il est venu voir la librairie. Il a dit, écoutez, j'aimerais bien voir votre librairie, parce que c'est une librairie française, c'est bien. Et il m'a demandé pourquoi vous mettez des livres de face, mais pas de dos, en tranche. J'ai dit, si, mais si je mettais mes livres en tranche, je n'aurais qu'un mètre, tandis que là, j'ai au moins 10 mètres. En mettant de face, voyez. Il m'a dit, écoutez, c'est astucieux, mais venez, quand vous venez à Paris, venez me voir, je voudrais vous aider. Donc, Jacques Lang, le ministre, il m'a aidé pour que je puisse mettre un fonds de livres en langue française en place. Il est beaucoup plus important que ce que j'avais avant.
D'accord.
Voilà, donc jusqu'à 86, j'étais au Népal. Et ensuite, j'ai quitté le Népal, je suis revenu en France, où j'ai créé une librairie également, mais où je vendais des livres importés du Népal en anglais sur le Tibet, le Népal et l'Inde.
Suite de notre entretien avec Raj de Kondapa, comment l'on passe de la librairie à la maison d'édition?
Pourquoi, vous voyez, lorsque il y avait des auteurs très très importants en Asie en général, hein, donc aussi bien au Népal, et Tibet, Vietnam, Cambodge, Laos, etc. Il y avait pas mal d'auteurs importants que je trouvais que les éditeurs ne donnaient pas d'importance, de les réhabiliter, les rééditer, vous voyez. Je m'étais dit, puisque personne ne fait pas ça, pourquoi pas moi? Donc avec Elisabeth, mon épouse, et on s'est dit pourquoi ne pas créer une maison d'édition. On a créé donc une maison d'édition qui s'appelle le Montagne Kailash, et on commençait à rééditer une série de titres très importants sur le Vietnam. Dès l'ouverture du Vietnam en 93-94, on a réédité une quinzaine de titres très importants sur ces auteurs français qui ont vécu au Vietnam entre les deux guerres, qui ont critiqué gentiment à travers la littérature, la présence coloniale de tous ces gens, certains esclavagistes, d'autres savaient vivre et adopter les mœurs et les coutumes des pays d'accueil, dont le Vietnam, le Cambodge et Laos. Parce que ces trois pays dont on parle de l'Indochine, les Français avaient laissé quelques souvenirs sympathiques. Ceux qui ont adopté la coutume et les mœurs de ces pays-là, qui ont même adopté leur langue, qui sont devenus des chercheurs travaillant dans ces domaines-là, au CNRS ou à l'École française d'Extrême-Orient. Il y avait des Français, des gens fantastiques. Hein? Il n'y avait pas que des colons, heureusement. Okay? Mm-hmm. Donc, vous voyez, et j'ai eu la chance de réhabiliter tous ces gens-là qui ont joué des rôles importants sur le Cambodge, dont Georges Grolier au Cambodge, au Vietnam, Eugène Pujard-Niscle. Et de Pourvouville, et en Inde, Georges Delamar, Victor Jacquemont, et au Tibet, au Népal, un grand sanskritiste français début du siècle dernier qui s'appelait Sylvain Lévy, qui était prof au Collège de France, et dont Alexandre David Nel était une de ses élèves, ainsi que François Mitterrand, que je ne savais pas, qui aurait pris le cours de sanskrit au Collège de France auprès de Sylvain Lévy. Ça m'a touché quand François Mitterrand est venu acheter le bouquin de Sylvain Lévy. Oui, donc c'est vraiment un monde extraordinaire, et le monde dans lequel je vis, je trouve extraordinaire. Je ne suis pas Gallimard, je ne suis pas Grasset, je ne suis pas Flammarion, mais je suis un tout petit éditeur. Donc je peux bien m'amuser en direct avec les auteurs directement sans prendre très au sérieux. Donc je rencontre des gens passionnants et qui m'ont aidé également. Certains auteurs m'ont même donné, écoute, tu publies mon livre, je ne veux pas de droit d'auteur dessus. Et puis j'ai eu quelques auteurs comme ça, extraordinaires, qui ne veulent pas de droit d'auteur. Même s'ils en veulent, je n'aurai pas les moyens d'en donner, mais ce n'est pas grave, qu'est-ce que je leur dis? Prenez vos livres tant que vous voudrez, ce que vous voulez, ou autre livre. Donc j'échange, j'ai fait les trocs des livres contre les droits. Oui. Donc c'est un processus qui est intéressant. J'aime bien quand vous dites passeur. C'est intéressant parce que je trouve que c'est intéressant de faire le métissage des connaissances, vous voyez. Moi, j'ai ramené des livres écrits en anglais sur le Tibet, Népal, Inde vers la France et le sens contraire en français dans ces pays-là pour faire connaître le regard croisé des auteurs indiens et des auteurs français.
Petite visite maintenant de cette librairie qui renferme tout le stock quasiment des éditions Kailash, librairie et maison d'édition, ce sont les deux. Vous pourrez trouver plein de choses. Alors Raj de Kandapa, nous allons visiter avec lui cette librairie, il va nous expliquer toutes les collections diverses qui organisent son fonds, hein, avec une Asie imaginaire, avec la Bibliotheca Asiatica, avec Civilisation et Société, et avec Grinderie, et avec du polar de l'Extrême-Orient.
Quand on arrive face à la porte, on a une petite collection verte.
Oui.
Ça n'a rien à voir avec les bibliothèques vertes que tous les lecteurs français connaissent.
Oui.
C'est une collection consacrée aux romans policiers.
C'est ça, qui s'appelle Mystère et boule d'opium. Et cette collection policière, les couvertures sont vertes. Pourquoi elles sont vertes? Parce qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de sang. C'est plutôt une invitation au voyage. Là, nous avons publié dans cette collection un auteur français qui s'appelle Bernard Grandjean, qui était directeur service culturel à Strasbourg. Bernard Grandjean est fasciné par le Tibet. Il a appris le tibétain, il a beaucoup étudié sur le Tibet. Donc il a écrit une collection qui s'appelle Betty, qui se passe au Tibet. Et on a 10 titres de Betty, dont le mystère de cinq stupas, une vengeance tibétaine, et le médecin de Lhasa, le collier des bodhisattvas, et puis Meurtre au Bhoutan. Tous ces titres ne sont pas des suivis, mais ce sont des sujets très différents, mais l'histoire toute de Betty qui est en voyage dans ces pays-là.
Voilà, donc une petite collection policière. Alors on est sur le rayon pays l'Himalaya.
Oui, exactement, hein.
Il y a aussi, on l'évoquait tout à l'heure, il y a Satyajit Ray avec, oui, la,
la célèbre série des Féludas.
Exactement.
Hein, on a publié pendant je ne sais combien d'années un par an. Et oui. C'était très attendu, on me racontait en Inde
absolument.
Le nouveau Féluda.
Absolument.
Et puis il y a aussi des romans chinois.
Hein, voilà. Qui se passe en Chine également. Voilà.
On verra quand on sera devant les rayons
chinois
concernés. D'accord. Alors là, c'est un premier rayon, donc c'est les pays de l'Himalaya.
C'est ça.
Alors, si on continue, après, on va tomber sur un rayon, deux rayonnages consacrés au Vietnam.
Voilà, exactement. C'est très intéressant, vous voyez, par exemple, ce livre-là de Claude Farrer, qui écrit ce livre-là en 1905, il s'appelle « Civilisé ». C'est un livre très, très intéressant et très bien écrit sur trois personnes qui essaient de retrouver son équilibre au Vietnam durant l'époque coloniale, au début du siècle dernier, 1905 exactement. Cet ouvrage s'appelle Civilisé. Il était en compétition avec Zola. Et Claude Ferrer a eu le prix Goncourt pour cet ouvrage, Les Civilisés, contre Zola. En 1905. Et c'était l'époque coloniale, donc il a écrit également que la fumée d'opium, ce sont des nouvelles magnifiques qui se passent au Vietnam toujours.
Et puis, alors là, je vois, il y a un titre sur lequel vous aviez attiré mon attention, peut-être en dire deux mots, le bonze et le pirate.
Oui, Eugène Pujanisque, qui a écrit Les bonzes et les pirates, il a été prof de philo dans un lycée français à Saigon à l'époque. Et Pujanisque était très très proche des Vietnamiens. Il a écrit ce roman dans lequel il parle de bonzes et les pirates, parce que les Français à l'époque considéraient les nationalistes vietnamiens comme des pirates. Donc c'est une manière de les repousser, de leur donner une manière dès que ce sont des mauvais, comme on dit les Viet Cong ou les communistes aujourd'hui, et que ce sont des pirates, ils ne vont pas fréquenter parce qu'ils sont ils sont nationalistes, ils veulent récupérer l'indépendance de leur pays, etc. etc. Mais il a écrit ce roman qui est très sympathique, qui s'appelle Les bonzes et les pirates, est à lire et à comprendre pourquoi il écrit ça. Et alors, après, vous avez ça aussi, ce qui est très bien, sur la route mandarine de Roland Dorgelès, qui est allé au Vietnam à cette époque-là. Ce bouquin a été écrit en 1930, mais la route mandarine, c'est la route qui part de Saigon à Hue, la cité impériale, et cette route reste quand même aujourd'hui assez majestueuse. On peut encore découvrir quelque chose du passé. C'est très vivant.
Alors là, c'est intéressant parce que on découvre aussi, là, depuis ce que vous nous présentez, ce sont des auteurs français qui ont écrit sur ce monde-là. Donc, dans votre librairie, on trouve les auteurs de ces pays, mais on trouve beaucoup d'auteurs français qui se sont intéressés à l'histoire, à la sociologie, à l'imaginaire de ces pays-là.
Tout à fait, tout à fait. Mais ce sont des échanges, vous voyez. Donc, c'est mon but, c'est nos livres qui sont publiés sur ces pays concernés, aussi bien en Asie du Sud-Est, dont je vous ai cité tout à l'heure, Vietnam, Cambodge, Laos, etc. Et mes livres sont en vente pour le peu de lectorat francophone puisse les lire. Je n'ai pas publié que pour un lectorat français, aussi pour un lectorat des pays concernés. Oui, donc je sais, et mes livres se trouvent au Vietnam, au Cambodge et au Laos.
D'accord. Alors, donc Vietnam, alors on va faire le tour un petit peu de la librairie. J'encourage nos auditeurs à se déplacer pour venir voir par eux-mêmes. Donc là, on a un rayon de littérature chinoise.
Plutôt récit de voyage.
De récit de voyage.
Voilà, et roman sur la Chine.
D'accord. Hein?
Donc là, vous avez également trois ouvrages écrits par un médecin qui s'appelait Legendre, qui a fait des voyages extraordinaires au début du siècle dernier dans la région de Sichuan, en Chine. Ouais. Et il a travaillé également sur les minorités, les Loloti, les minorités chinoises à Yunnan. Et également, il a fait un grand voyage en Chine, voilà, à cette époque-là. Et ses livres est totalement épuisé et personne ne connaissait. On a découvert, on l'a réédité, on l'a mis en place pour que les gens puissent découvrir toutes ces œuvres écrites à cette époque-là, mais restent très importantes aujourd'hui.
Alors, ça pourrait intéresser particulièrement nos auditeurs montpelliérains, puisque c'est sur Sichuan. Et
la ville de Montpellier est jumelée avec Chantou, qui est la capitale du Sichuan.
Bravo, j'espère que les gens viendront. Et là, je rajoutais une attention particulièrement à Marc, à Vercors. Vercors a écrit un livre en 2 volumes sur la Chine. Il est allé en Chine en 1956. C'est très intéressant de son regard de ces pays, de la Chine de cette époque-là en 1956. Et aussi, on a reproduit ses dessins d'origine dans ce petit ouvrage.
Alors, je dis bien pour les amateurs de littérature, vous avez bien entendu, Vercors, oui, Vercors a fait le voyage, a écrit sur la Chine, il n'a pas écrit que Le silence de la mer ou Les animaux dénaturés, il a aussi écrit sur la Chine. Et puis, bien sûr, je vois Pierre Loti, qui est un écrivain qui était un passionné d'exotisme. Il y a aussi la Corée, donc à côté...
Oui, la Corée, le Japon. Loti aussi est allé au Japon plusieurs fois. Donc, il y a 2 ou 3 ouvrages de Loti qui se passent au Japon.
Voilà, la Corée et le Japon. Ici, on a Indonésie, Malaisie et Birmanie. Donc, pareil, un tas d'ouvrages alors, d'auteurs qui sont allés là-bas. Alors, il y a des souvenirs de voyage, il y a des récits.
C'est fabuleux. Roger Vaillant, un grand auteur français... Hein, qui était très, très, très versé gauche, hein, bien sûr, libertin, Liana. Il est allé à Borobudur, en Indonésie. Il a créé un voyage à Bali extraordinaire de Roger Vaillant. Donc, celui-ci, nous avons également publié pour faire connaître que Vaillant est allé également en Indonésie. Donc, il a écrit ses bouquins Borobudur. Et un autre qui est très intéressant aussi, Marc, et cet auteur s'appelle... Donc Maurice Magre, c'est un auteur d'origine de Toulouse, Maurice Magre. Et cet auteur est allé en Asie, notamment en Inde d'abord. Et je parlais de l'Inde après, je parlais de lui, notamment Le mystère du tigre. C'est un ouvrage qui se déroule en Malaisie et Singapour. Il a écrit un livre sur le mythe du tigre. Parce que le tigre est un animal très important en Asie. Mmh. Il a écrit un roman qui s'appelle Le mystère du tigre, qui est extraordinairement bien écrit. C'est très intéressant, de Maurice Magre, un auteur de Toulouse.
Voilà, donc une découverte à faire pour les lecteurs français. Alors, on va aller. Là, on est dans la pièce qui est sur l'entrée, si je puis dire, de la librairie.
Tout à fait.
Et puis, on a un petit couloir et on va aller passer dans la pièce du fond.
Voilà, on part en Inde.
Et on part en Inde.
Voilà.
Alors, nous voilà arrivés en Inde. Alors, il y a un petit rayonnage. Avec Satyajit Ray, qu'on évoquait tout à l'heure,
oui,
avec
les
différents volumes de la série des Felouda. Oui. Il en a écrit beaucoup, il doit y en avoir une trentaine.
Il en a écrit beaucoup. Nous, on a sélectionné qu'une dizaine, qui correspondait un peu à notre ligne éditoriale. Et Satyajit Ray, et il venait d'avoir 100 ans, le 2 mai 2021 de cette année. Et on aimerait bien fêter son centenaire, malheureusement c'est un peu trop juste, j'espère pouvoir le faire l'année prochaine à Montpellier, en présentant ces 10 livres que nous avons publiés en français, l'aventure de Felouda, et également faire une exposition de ses photos. Il a dessiné pas mal également, mais j'ai quelqu'un qui possède une collection de ses dessins, si j'arrive à faire venir de l'Inde, et notamment présenter ses films l'année prochaine à Montpellier, si on peut, avec ses livres sur l'aventure de Felouda.
Alors ça, du coup, c'est un autre projet autre que l'édition et la librairie qu'on peut aborder. C'est un petit peu, on va dire comme ça, centre culturel consacré à l'Extrême-Orient.
Oui, ça, ce serait bien, Marc. Je projetterais, bien sûr, en venant à Sète, je ne viens pas pour m'installer avec une petite librairie sympathique et rester assis, regarder les passants. Non, je voudrais également organiser des rencontres avec des jeunes artistes asiatiques venant du Népal, du Tibet, du Cambodge, Vietnam, Laos, la Thaïlande et l'Inde, bien sûr, et sur le plan culturel. Il y aura la musique, la danse, des dessinateurs, des photographes, etc. Donc, je voudrais bien le faire. Je suis en train de travailler là-dessus, mais j'espère que la mairie de Sète, notamment le service culturel, me soutiendrait pour ce projet, que l'on puisse faire ça ensemble, pour qu'on puisse faire tourner peut-être dans la région, dans les grandes villes comme Metz, Montpellier, Sète, Frontignan, etc., etc. Et j'aimerais bien le faire. Donc c'est, j'aimerais bien faire un échange culturel vivant avec Sète. Et avant, je mettais la France sur la carte de l'Asie. Aujourd'hui, je vais mettre Sète sur la carte de l'Asie.
Les Sétois seront touchés, j'imagine. Alors, il y en a sur les quatre murs, j'ai envie de dire, des livres autour de l'Inde. Donc, Feluda, c'est un tout petit morceau. Donc, pareil, il y a toujours des livres de voyage, de la littérature indienne.
Anthologie, histoire et aussi des essais sur l'Inde également. Et puis là, cet ouvrage est intéressant, écrit par une poétesse qui n'est plus de ce monde et qui est décédée il y a peu de temps, qui s'appelait Amrita Pritam. Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle Pinjar, le squelette. C'est sur la guerre indo-pakistanaise, la séparation de ce pays en deux morceaux. Vous voyez, donc l'hindouisme, enfin les hindouistes l'islam et l'hindouisme se séparent en 47 durant cette guerre horrible. Mais cet ouvrage est très bien écrit pour bien comprendre pourquoi il y a eu une déchirure entre l'Inde et le Pakistan.
Oui, parce que ça, voilà. On connaît ça en France, voilà, à travers le cinéma ou les écrits.
Exactement.
Parce que Gandhi était très inquiet et c'était sa grande crainte et il n'a pas réussi à empêcher la scission entre les deux pays.
Oui, malheureusement. Et puis, dans la collection indienne, il y a aussi un ouvrage qui est intéressant, celui-ci, écrit par Judith Gautier, la fille de Théophile Gautier, qui n'est jamais allée en Inde. Elle, comme son père recevait des grands orientalistes, etc., donc dans le salon de la maison, on écoutait, on parlait beaucoup de sujets intéressants, donc Judith Gautier savait bien écrire. Elle a écrit un roman qui se passe à Pondichéry, au 18e siècle, durant l'époque française, qui s'appelle La conquête du paradis. C'est un ouvrage merveilleux dans lequel elle mise en scène tous les grands pontes de l'époque en duplex, François Martin et Lolita Tollendal, tous ces gens qui ont joué un rôle important à Pondichéry. Je souhaite de tout cœur qu'un jour un cinéaste français fera un film à partir de cet ouvrage, mais pas les Américains. Je souhaite que ce soit plutôt un Français qui fait un film. Les Américains sont bons, sont forts, sont bons, mais je préfère que ce soit un Français qui fasse un film à partir de cet ouvrage, La conquête du paradis.
Si des producteurs nous entendent, qu'ils enregistrent et qu'ils viennent se procurer chez vous le livre de Judith Gautier.
Voilà. Et notre ami Loti est allé en Inde en 1900 pile. Et il a écrit un livre qui s'appelle L'Inde sans les Anglais.
Voilà, des ouvrages de Pierre Loti, vous en trouverez à peu près à tous les rayons.
Voilà. Il est allé en Inde, il n'a pas vu les Anglais. Donc il a écrit un ouvrage, c'est L'Inde sans les Anglais. Beaucoup de romans. On a publié ces livres récemment, qui a loupé le salon du livre de Paris à cause de Covid, les 108 visages de l'hindouisme. Et je devais le présenter aussi à la médiathèque de François Mitterrand. Et à cause de Covid, on n'a pas pu le faire. C'est un ouvrage très important sur les 108 visages de l'hindouisme, sur l'histoire de l'hindouisme. Mais c'est un regard intéressant, pas du tout scientifique, mais très bien écrit par l'auteur qui s'appelle Jean-Pierre Pascal, qui est lui-même scientifique forestier, qui a vécu longtemps en Inde et au Vietnam.
Ce qui peut, j'imagine, permettre à la lecture de mieux comprendre les difficultés qu'il y a en Inde en ce moment. Là, on parle beaucoup de l'Inde dans l'actualité.
Exactement.
Et là, c'est pas pour la littérature ou les arts, mais d'autres problèmes.
Exactement.
Absolument. Donc, il y a plusieurs collections.
Oui,
évoqué Mystère et
Boudopium, qui est une collection policière. Il y a Les Grains de Riz, ce sont des livres qui sont traduits de langue vernaculaire indienne vers le français. Et puis, il y a Bibliothèque Asiatica, dans laquelle on a publié des œuvres importantes de siècle dernier, récits de voyage, du 18e, 19e, et également l'histoire coloniale anglaise et française. Et après, vous avez Sciences et Civilisations. Dans cette collection, nous avons connu l'histoire indienne, cambodgienne, vietnamienne, singalaise, Sri Lanka, etc. Donc, on a quatre collections.
D'accord. Voilà. Bien, voilà. Moi, je crois qu'on va encourager nos auditeurs à venir vous rendre visite. Et vous l'avez compris, que vous soyez lecteur simplement curieux, voyageur qui a envie de partir dans ces pays, qui veut un peu se documenter, se sensibiliser à la culture avant,
Pour rajouter un peu une phrase que venait de dire Marc, par exemple, nous, notre maison d'édition joue un rôle de passeur et relier la culture. Quand vous partez en voyage, vous avez tendance d'acheter le guide du routard. Bon, il n'est pas trop mauvais, mais il n'y a pas grand-chose à lire dedans. Lonely Planet, qui est un guide australien, qui n'est pas mieux non plus. Mais pourquoi je parle ? Ce n'est pas du tout pour défendre ce que je fais, pour défendre ce que nous publions. C'est un complément de guide de voyage quand on voyage dans ces pays concernés. Donc, il suffit d'acheter un bouquin de chez KLH, de n'importe quel pays d'Asie, et ça vous donne un complément de connaissances de pays d'accueil. Où vous allez voyager, ça vous aide à mieux rentrer dans ces pays-là. Parce que nous, notre manière de travailler, c'est ça, apporter un côté complémentaire pour un voyageur et qui va là-bas pour la première fois ou pour la dixième fois. Donc on trouve toujours quelque chose à lire, même pour la première fois ou pour xème fois.
J'espère que les voyageurs et les curieux nous auront entendus et viendront vous rendre visite.
Avec plaisir.
Merci Raj.
Merci beaucoup Marc.
Voilà, c'était notre entretien avec Raj de Kondapal et la librairie et édition Kailash. Donc c'est 1 quai Rhin et Danube à 7. Si vous voulez vous rendre à la librairie, les horaires sont de 10 à 13 heures et de 16 heures à 19 heures. Si vous venez d'un peu loin, contactez la librairie pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. On ne sait jamais. Merci de votre écoute. C'était Marco Sorghin au micro pour Marc Page pour Divergence FM et Adeline Floch à la technique. À très bientôt.